Nas.
Nada, no, nine, dameda. Je ne veux pas, c'est comme ça. Je ne veux pas, c'est mon droit.
Dégenré, l'émission féministe pour déranger. Un jeudi sur deux.
De 19h à 20h. Une heure de féminisme.
Sur Radio Campus Grenoble, 90.8. You got a tall body, hairy body, brown body. Listen to mommy, not one body
bad. Everybody a good body and that's facts. Se permettre des trucs qu'on ne fait jamais.
Faire des mots croisés.
Écouter la radio.
Ne pas savoir ce que je vais faire de toute la journée.
Me promener.
Bronzer à poil au bord de la rivière.
Ne pas cuisiner.
Rompre avec le quotidien.
Me baigner tous les jours.
Faire des jeux.
Déconnecter.
Fumer, mais alors à n'importe quelle heure.
Faire de la musique.
Prendre le temps de dessiner.
La solitude.
Manger des sorbets.
Discuter avec des amis.
Mettre des heures à cuisiner un plat qu'on va manger en 10 minutes.
Rouler sur une nationale, la fenêtre grande ouverte, en chantant à tue-tête.
Traîner pendant des heures avec les amis.
Faire la grasse matinée.
Claquer des thunes dans un resto.
Être dehors dans la nature.
Dormir longtemps.
Aller au lac.
Lire un livre en une journée.
Voir l'horizon.
Traîner le cul dans une bouée.
Prendre mon café et me recoucher.
Faire des randonnées.
Faire un petit-déj qui dure 3 heures au moins.
Boire des coups en terrasse.
Retrouver des amis.
Participer à des rencontres.
Les vacances sont-elles politiques ? La question des vacances est-elle politique ? Et est-ce qu'on fait des vacances politiques ? Mais surtout, surtout, ce que vous vous demandez toutes,
oui,
mais que font les féministes de la cuvette pendant leurs vacances ?
Oh là là !
Aujourd'hui, on parle de vacances avant les vacances. Qu'est-ce que ça nous évoque ? À qui on pense ? À quoi on se souvient quand on parle de vacances ? Les vacances, c'est aussi super lié à des questions économiques. En France, 40% des gens ne partent pas en vacances, ou parmi celles qui partent, la moitié ont des hébergements dits non marchands, chez des amis ou dans la famille. Selon Saskia Cousin, qui est anthropologue, cette pratique est même devenue à la mode dans certaines classes sociales. Alors qu'avant, il fallait visiter des pays, faire du tourisme culturel, c'est de plus en plus valorisé de faire du tourisme en France sans prendre l'avion, en faisant la tournée des amis par exemple. Bref, les vacances changent de gueule. Enfin non, en fait, ce dont on se vante sur nos vacances, ça, ça change de gueule. Enfin, pour celles qui en prennent. Parce que les vacances, c'est le moment de loisir, souvent pendant les 5 semaines de congés payés, le moment pour se détendre et pour pouvoir tenir le reste de l'année. Mais du coup, ça, ça marche quand on a un CDI. Ça marche beaucoup moins avec l'intérim, quand on enchaîne les CDD ou quand notre travail n'est pas reconnu. Il n'y a pas vraiment de congés payés pour le travail domestique et la prise en charge des enfants ou des maris. Une des solutions, c'est d'envoyer les mômes en vacances chez la grand-mère. Mais c'est une solution un peu morbide qui rappelle bien que quand on sera grand-mère, notre retraite sera rythmée par la garde des petits-enfants, qui, de plaisir, peut bien vite se transformer en contrainte. Et c'est aussi sans oublier les tafs précaires, souvent assurés par des femmes et des jeunes, pour permettre aux plus riches de profiter de vacances réussies. On pense alors aux femmes de chambre sous-payées et maltraitées dans les hôtels, et surtout à leurs mois de grève. On pense aussi aux animateuristes sous-payés, en fait indemnisés, et à toutes les saisonnières. Bref, même si ça ne rime pas pareil pour tout le monde, c'est quand même ce qui nous fait... C'est quand même les vacances qui nous permettent de lâcher le quotidien, de nous reposer, de prendre un peu de distance. Alors voilà, une émission partagée entre la critique de ce monde d'oppression et l'importance de pouvoir se reposer.
Ah, les vacances. Le soleil et l'oubli. Le repos, les amis. Et les voyages plus loin que la nuit et le jour. Vous connaissez la chanson. Réservoir d'imaginaire et d'aspirations plus ou moins ambitieuses, comme « Ah, je vais profiter de ce mois d'été pour écrire mon premier roman », Les vacances sont rarement aussi vides qu'elles le désignent. Comment être en vacances, vacant, vide, lorsque nous sommes dans l'agitation des gares, dans l'énervement des aires d'autoroute, dans les attentes piétinées des douanes d'aéroport? Et cela n'est que pour rappeler des agacements imminents. Mais il est tout aussi difficile d'être en vacances lorsqu'il n'y a rien à faire, rien à opposer, une activité contre le repos, un planning contre une pause. Il faut dire que l'expression est curieuse, être en vacances. Car d'un raccourci mal placé, nous oublions qu'il ne s'agit pas d'être, mais de structure ou être. Si on remonte rapidement l'usage du mot, les vacances désignaient un emploi libre, parfois donc la vacance d'un trône pour les rois ou les reines. Puis c'est devenu la période de fermeture des tribunaux et des écoles et des universités. Et pourquoi donc ? Parce que les vacances d'été furent inventées pour que des bras se libèrent pendant la période des récoltes de juin à la fin septembre, lorsque les vendanges s'achèvent. Rien à voir avec la pause, l'arrêt total et les envies plus ou moins réalisables de plage ou d'ailleurs. Aujourd'hui cependant, il n'en est plus tout à fait la même chose. Ce que Madonna remarqua dès 1983, d'ailleurs avec une perspicacité géniale et ô combien rythmée, et de, je vous rappelle le refrain complexe, « Holiday, celebrate ». Holiday, celebrate, voilà.
Ça rappelle quelque chose à quelqu'une.
Donc, Madonna nous a inscrit définitivement les vacances dans la célébration et la fête. Elle rappelle même parfois juste un jour dans la vie, célébrons les vacances. Je vous le traduis grossièrement, c'est un peu ça qu'elle nous raconte. Donc, la fête, en se liant en vacances, rappelle peut-être les envies de sociabilité nouvelle. Différentes, parfois même de rencontres qui glissent doucement vers des amours de vacances. Enfin, pour ce qui est de la carte postale et de la bonne humeur de la Madone. Quant à la sociabilité qui permet l'expression, le partage d'engagement féministe, elle garde des airs de sous-conditions parfois. Celle de nos envies d'abord, lorsque les personnes croisées, parfois la famille, nous lassent déjà de toute amorce de débat. La poétesse américaine Kate Rushing écrivait dans les années 80 le poème du pont, devenu un des textes les plus emblématiques, un de ses textes les plus emblématiques, et dont la traduction et le fragment ici dit « J'en ai marre. J'en ai marre de compenser vos manques, marre d'être votre assurance contre l'isolement des limitations que vous imposez vous-même, marre d'être la folle dans vos dîners de vacances, marre d'être la bizarre dans vos brunchs dominicaux, marre d'être la seule amie noire de 34 individus blanches. Trouvez une autre connexion au restant du monde. Trouvez quelque chose d'autre pour vous légitimer. Trouvez un autre moyen d'être politique et branché. Je ne serai pas le pont vers votre féminité, votre masculinité, votre humanité. » Très clairement, donc, elle marque une pause. Mais la question sous-jacente était peut-être de se dire, est-ce qu'on peut être engagé et à la fois pédagogue ou réussir quand même à passer, quels que soient les contextes et parfois les vers qui se partagent, les causes de nos engagements. Il faut assumer l'habit, le rôle, la présence, parfois difficilement. Et il est question aussi de situation, d'où prendre la parole. Il a été documenté depuis longtemps, et on l'a rappelé dans l'intro, que les revenus dédiés aux vacances influencent nos sociabilités, puisque rejoindre la maison familiale ou les clubs de vacances en pension complète, rester en France ou partir à l'étranger, ne contribue pas à l'expérience des mêmes rôles et des mêmes pratiques, de nos convictions et de nos idées. Il en va sans doute de même pour les choix de nos destinations. Alors, y a-t-il des destinations engagées, politiques, féministes, des lieux propices à la réflexion qui ne se créent pas par la rencontre, mais qui appellent la rencontre ? Comme des endroits dédiés, disponibles, vacants. Difficile d'en trouver mention dans le discours des city branding, des grandes capitales. Pour ma part, j'ai toujours préféré de l'été l'isolement. Peut-être parce que trop de choses en moi remuent et que le partage mérite parfois d'être suspendu. Mais je partage volontiers les routes que je sillonne à la condition du silence des mots. D'autant plus en compagnonnage d'une Highway Woman, c'est le titre de la chanson de Kiki Rockwell. Je vous le disais, les vacances sont parfois pleines d'aspirations ambitieuses.
For sister. She'll be riding six white horses when she comes. She'll be riding six white horses when she comes. How a woman sees a dangerous man, speaking in tongues I do not understand. How a woman sees a girl, she's a gun. I swear she's making plans with me to cancel just for fun.
Vous êtes à l'écoute de Dégenré, l'émission féministe sur Radio Campus Grenoble 90.8. Ce soir, on parle des vacances sous tout plein d'aspects différents. Et qui dit vacances dit tourisme. Qui dit tourisme dit tourisme à l'étranger, frontières. Qu'est-ce qu'on en pense ?
Eh ben, en fait, moi, je voulais vous proposer de reprendre du coup ce qui a déjà été dit auparavant par mes camarades, mais reprendre un peu des chiffres autour de tout ça. Je les ai gladés au fil de plein de sites internet différents. Du coup, je vous laisserai faire vos propres recherches pour retrouver les sources. Voilà. Alors, du coup, les choses qu'on apprend, c'est que par exemple, en 2021, il y a 62% des Français, du coup, qui ont plus de 15 ans, qui sont partis en vacances. Et du coup, comme on l'évoquait aussi, bah, forcément, partir en vacances, ça ne signifie pas la même chose en fonction de nos revenus. Parce que par exemple, 85% des revenus les plus élevés partent en vacances et de manière répétée, et avec des séjours où ils passent plus de 6 nuits à l'étranger. Alors que 40% des gens qui partent en vacances, les moins riches, partent moins de temps que ça et de manière moins répétée. Voilà, du coup, forcément, la classe sociale, enfin, les vacances sont aussi un marqueur de classe sociale. Voilà. Et d'ailleurs, eh ben, du coup, on apprend aussi que du coup, 80% des personnes qui partent en vacances, en fait, décident de partir pas loin du tout. C'est-à-dire soit en France et souvent dans des séjours ou avec des hébergements où ils vont pas payer. C'est-à-dire avoir les amis, la famille, tout ça, tout ça. Ensuite, la deuxième destination préférée des Français en ce moment, c'est les pays proches. Du coup, l'Espagne, l'Italie, tout ça, tout ça. Et après vient aussi, bien sûr, le Maghreb. Et du coup, voilà, au final, c'est pas tellement les séjours très très éloignés et tout ça qui sont le plus valorisés en ce moment. Et sans doute pour des raisons écologiques, comme tu l'évoquais tout à l'heure, Ernest, par l'analyse de la sociologue. Voilà. Et du coup, voilà, quelques chiffres encore. C'est que par exemple, au final, ce sont entre 250 et 300 000 personnes qui vont partir vers d'anciennes colonies, du coup au Maghreb ou alors dans les Antilles aussi. Ce sont 700 000 personnes en fait, qui vont partir vers les DOM, du coup, cette année. C'est une estimation, voilà. Et en 2015, ça représentait 2,2 millions de personnes qui partaient plutôt vers l'Afrique et tout ça. Donc voilà, c'est intéressant de voir qu'en fait, on bouge beaucoup, quoi. Vive les congés payés, tout ça, on bouge beaucoup. Par contre, on peut faire un petit parallèle avec d'autres chiffres, qui sont ceux de l'immigration. Parce que du coup, on apprend que par exemple, en 2020, ce sont 215 000 personnes qui sont venues migrer vers la France. Et ça représente moins de personnes qu'en 2019. Et voilà, c'est un chiffre un peu fluctuant. Voilà. Et parmi toutes ces personnes, en fait, il y en a moins de 100 000 qui viennent d'Afrique. En fait, il y en a beaucoup qui viennent aussi d'Europe ou d'Asie. Et voilà. Et du coup, ça ne fait pas tellement de personnes que ça, quand on sait que, par exemple, il y a 1 million 600... Non, si. Si. 1 614 772 Français, voilà, c'est pour ça l'hésitation, qui vivent à l'étranger en ce moment. Voilà. Et à côté de ça, il y a 2,5 millions de personnes qui sont d'origine étrangère, qui sont naturalisées et qui vivent en France. Ça fait pas tant que ça non plus. Et voilà, et tout ça, ces chiffres, c'est bien mignon, mais on voit qu'à côté de ça, en fait, on estime qu'il y a 6 personnes qui meurent chaque jour en essayant de traverser la Méditerranée. Voilà. Entre 2014 et 2018, voilà, c'est des chiffres qui datent un peu, mais du coup, on peut facilement les doubler. On estime qu'il y a eu 28 555 personnes qui sont disparues en mer en tentant de traverser vers l'Europe. Voilà. Et... du coup, c'est quand même intéressant d'avoir un peu tous ces chiffres en regard et de se rendre compte que la géométrie des frontières est tout à fait variable.
Et oui, parce que les personnes qui détiennent un passeport français ou européen peuvent facilement voyager dans le monde entier. Mais les frontières, c'est pas du tout la même chose pour tout le monde. Les frontières des États, globalement, c'est des lieux de contrôle et de surveillance. Elles sont fermées et elles servent à filtrer des personnes ou des marchandises qui sont acceptées, qui font partie du pays ou qui sont acceptables, en empêchant le passage des personnes qui sont et des marchandises qui sont considérées comme indésirables, surtout des personnes. Puisqu'il y a quand même des gestions très capitalistes des frontières. Du coup, cette année, quelques jours avant les départs en vacances, on ne peut que rappeler ce qui s'est passé à Mlia, le 24 juin. Pour rappel, Mlia, c'est une colonie espagnole qui est sur les terres marocaines, qui est souvent appelée l'enclave de Mlia, puisqu'elle fait seulement 12 km², et elle est séparée du reste du territoire marocain par une triple barrière grillagée, des barbelés. Elle est surveillée par des drones, des militaires, des caméras visuelles et infrarouges, et plein de systèmes qui sont prévus pour surveiller, entraver ou blesser les personnes qui tentent de les passer. Et les personnes, pour pouvoir les passer, elles vont donc s'organiser à plusieurs, et les passer ensemble. Et donc le 24 juin dernier, c'est près de 2000 personnes qui étaient en situation irrégulière au Maroc qui ont tenté de passer cette frontière de Mlia, et il y a 23 d'entre elles qui sont mortes pendant ce passage-là. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a directement parlé d'une attaque contre l'intégrité territoriale de l'Espagne. Parler ainsi de ce passage, c'est encore une fois faire une assimilation entre les passages de frontières et la criminalité ou le terrorisme. En aucun cas, l'intégrité de l'État espagnol n'a été attaquée par un passage de frontière. C'est ce genre de discours qui permet simplement d'excuser le fait que des personnes soient tuées. Et encore une fois, à la frontière espagnole. Ou, et ce qui est, enfin, à la frontière espagnole ou dans le reste de l'Europe d'ailleurs, à l'entrée dans le reste de l'Europe. Et Pedro Sanchez, il assume complètement ça, puisqu'il ajoute que c'est les mafias et les passeurs qui sont responsables de ces morts. A l'inverse, l'Association marocaine pour les droits humains, l'AMDH, section Nador, dénonce que les politiques migratoires suivies sont mortelles, avec des frontières et des barrières qui tuent, et réclame une enquête sérieuse pour déterminer les circonstances de ce bilan très lourd. Si encore une fois l'Europe se concentre sur la prétendue violence des migrants, c'est pour masquer la violence des politiques qu'elle met en place et qu'elle impose au Maroc, pour arrêter et harceler les personnes migrantes. Si des personnes s'arment de bâtons pour pouvoir passer une frontière et s'y rendent à 2000, c'est certainement parce que c'est la seule manière de pouvoir avoir une chance d'entrer sur le territoire de la forteresse Europe, de résister à la violence des gardes-côtes et des gardes-frontières. Et quand les dirigeants et les médias européens font tout un foin sur ce passage, c'est aussi un moyen de masquer leur politique internationale de pillage des ressources, les guerres, les conséquences du colonialisme et du néocolonialisme qui créent une misère insoutenable dans de nombreuses régions du monde. Alors les frontières sont un lieu d'inégalité sociale entre celles qui les passent pour le tourisme, l'immigration acceptable ou le business, et celles qui y sont bloquées. Celles qui y sont bloquées, violentées et assassinées.
Et d'ailleurs, parmi les conséquences du tourisme, il y a encore d'autres conséquences qui sont plus difficilement estimables. C'est les conséquences écologiques, par exemple. La consommation d'énergie des touristes dans les pays qu'ils vont visiter, elle est souvent catastrophique. C'est la consommation de personnes qui vivent dans des pays occidentaux. Ils n'ont pas l'habitude de devoir se rationner, ils n'ont pas l'habitude de devoir faire attention. Et du coup, les ressources des pays sont principalement orientées vers le tourisme. Et du coup, la population locale d'un pays peut en pâtir. Voilà, il y a ça d'un côté. Parmi les autres conséquences, bah, évidemment, il y a la pollution. Voilà, les voyages en avion, par exemple, bah, c'est très, très polluant. Un petit truc pour se donner un ordre d'idée. Un voyage entre les USA et la France, par exemple, ça représente, pour une personne, hein, ça représente la consommation en énergie quotidienne d'une personne pendant 6 mois. Voilà, pendant une demi-année, vous allez consommer de l'énergie. Et ben, cette énergie, si vous allez aux États-Unis, ben, vous la consommez en une fois. C'est quand même ouf. Voilà. Et après, bon, y a évidemment encore plein d'autres conséquences sur la biodiversité. Évidemment, avec la visite des sites et tout ça, bah, forcément, ça a une influence sur la biodiversité locale. Voilà. Et puis aussi, bah, du coup, il y a des conséquences sur la vie quotidienne, le prix des loyers qui augmente parce que ça attire énormément les gens, c'est tout ça. Et le prix des choses du quotidien aussi, la nourriture, ça augmente. Voilà, parce que les touristes ont beaucoup plus de moyens. Et voilà. Et aussi la qualité de ce qui est proposé, enfin la teneur de ce qui est proposé à la population locale, enfin elle change. Et du coup, par exemple, si vous allez en Espagne, par exemple à Barcelone, vous trouvez plein de banderoles, de plein de trucs et tout ça anti-touriste, mais parce que voilà, le tourisme, ça a des conséquences sur le coût de la vie et sur les personnes locales, quoi. Et même sans ça, on peut aussi parler, par exemple, des conséquences du tourisme de ski. Enfin, moi, je viens d'un pays de la neige, et voilà, les conséquences du tourisme du ski dans le coin d'où je viens, eh ben, c'est quelque chose aussi, quoi. C'est toutes les ressources d'eau qui sont orientées vers les canons à neige, et le prix des loyers qui flambe de ouf, les paysages qui sont complètement métamorphosés, bon, bref, voilà. Et tout ça, encore, c'est sans parler des conséquences néocoloniales du tourisme quand on part dans un pays... anciennement colonisé. Voilà.
Alors voilà, c'était la petite chronique pour parler des inégalités qui sont générées. Ouais.
Non, j'allais dire pour qu'on se sente bien avant de partir en vacances.
Voilà, pour se sentir bien avant de partir en vacances. Et pour se sentir bien d'ailleurs avant de partir en vacances, j'ai choisi de vous passer le morceau de musique suivant qui parle aussi d'autres réalités sociales liées à l'espace et aux vacances, qui est la question du patriarcat et de l'hétéropatriarcat. C'est un morceau de musique qui a été fait par Dream Nails, un groupe de musique états-unien. Le morceau de musique s'appelle Take Up Space, et Yael l'ont écrit. Du coup, c'est un morceau de surf punk qui appelle les filles, les transpédéguines et les non-binaires à prendre de l'espace cet été. C'est un hymne pour celles qui subissent l'oppression patriarcale. C'est un appel à nous réapproprier nos corps et à prendre prendre possession de nous-mêmes. Nous voulons vivre sans peur, nous voulons vivre librement, nous voulons prendre de l'espace. Et donc voilà, c'est le petit texte qui accompagne ce morceau de musique de Dream Nails qui appelle les filles, les transpédéguines et les non-binaires à prendre de l'espace.
Youhou ! Take up space.
Take off.
On est toujours sur Dégenré, 90.8 FM. Et je crois que Viviane en off, tu viens de nous dire que tu avais envie de rebondir sur cette histoire du ski de vacances.
Et pas tout à fait sur le ski, mais sur la montagne, parce que aussi une des conséquences du tourisme de montagne, outre la hausse des loyers que ça engendre dans les stations et la pollution, la destruction de cet habitat, il y a aussi toute une destruction un peu invisible parce que symbolique. On oublie que dans le monde, il y a une quantité de montagnes sacrées et qu'elles font quand même l'objet de convoitises de la part de touristes amateurs de grands frissons de nature et qui, au détriment des pratiques et des croyances qui sont... vivantes encore sur le lieu, sur les lieux, eh bien, vont gravir ces montagnes alors qu'elles peuvent être les sanctuaires de refuge pour les populations qui y vivent. Alors, on connaît la très célèbre Ayers Rock au milieu du désert australien qui continue d'être montée par les touristes alors que c'est l'équivalent peut-être d'un... Je sais pas, pour nous, ça serait une église. Est-ce que quelqu'un aurait envie de faire, de monter comme ça, la corde sur le devant d'une église? Ça se fait pas. Et donc, du coup, il y a que ce commerce un peu invisible qui est quand même aussi lié au tourisme parce que on encourage ces destinations, on encourage de se connecter à la nature et on oublie un petit peu les pratiques de ces montagnes.
Marina, tu veux rebondir?
Oui, mais parce que en fait, j'ai un peu envie de ramener ça à notre échelle, à nous. Je trouve ça très bien d'avoir ces critiques et je suis carrément d'accord avec vous, mais je trouve ça bien aussi de me regarder moi, enfin qu'on se regarde aussi nous. Moi, j'ai réfléchi il n'y a pas si longtemps que j'avais du mal à accepter les contraintes, bon, peut-être de manière générale dans ma vie, mais notamment en ce qui concerne mes vacances, enfin mes vacances ou les endroits où j'ai envie d'aller quand je trouve ça, que ça a l'air trop beau ou que c'est trop chouette. Et je me souviens, on était allés avec des copines dans les Calanques, à côté, entre Marseille et Cassis. Et en fait, c'est interdit de bivouaquer dans les Calanques. Et nous, on était allés pour bivouaquer. On avait bien l'intention de passer la soirée là-bas et de dormir là-bas. Et on supportait pas trop l'idée qu'on nous empêche de faire ça. Merde, on fait ce qu'on veut. Si on a envie de dormir là, on dort là. Bon, évidemment, on s'est fait taper sur les doigts par des gens dont c'est le boulot d'aller voir... les couillons et les couillonnes qui veulent quand même dormir là alors que c'est interdit, pour leur dire « ben non, en fait, c'est interdit, ça détruit la nature ».
T'as pas vu le panneau?
et bon, voilà, c'est pour dire, moi, ça m'avait fait réfléchir à pourquoi j'ai du mal à accepter aussi, parce que j'ai envie de dire « mais c'est bon, moi j'ai le droit, moi je suis pas une touriste débile de masse ». Ben, je sais pas. Vous voyez, bon, je me prends cet exemple-là et c'est vrai que moi j'ai envie de me dire, ah c'est bon, si ou une fois dans ma vie j'ai envie de prendre l'avion, je prends jamais l'avion, c'est bon, j'ai le droit, c'est bon, je fais jamais moi des trucs, mais en même temps voilà, c'est comment est-ce qu'on accepte aussi nous de se plier à, je sais pas, voilà, je lance un peu cette réflexion, qu'est-ce que ça veut dire les vacances, alors si on ne peut pas faire ce qu'on a envie de faire.
Du coup, ça rejoint cette question de la pause qu'on avait un peu réfléchi avant.
En tout cas, effectivement, une de notre petite piste était de se... Là, on va avoir un mini bout de discussion, pas très long, mais de se demander un petit peu qu'est-ce qui fait vacances pour nous, et notamment quand on est des personnes militantes, féministes, etc. En tout cas, qu'on est dans ce monde un peu en lutte et tout, est-ce qu'on arrive à avoir des pauses, puisqu'effectivement, les luttes, je ne pense pas que ça prend de vacances. Le patriarcat, le racisme, le classisme, tous les ismes ne prennent pas de vacances ou au contraire sont bien en vacances avec nous. Je ne sais pas comment on le dit, mais en tout cas, c'est bien. En tout cas, on ne les perd pas de vue, quoi.
On part avec dans nos valises, ah, moi, ça. Je crois.
Ils nous débordent du truc alors qu'on veut prendre que les petits trucs frais. Et en tout cas, c'est ça. On voulait un petit peu se poser une ou deux questions là sur est-ce que, effectivement, et je pense que si vous ne l'avez pas encore écouté, moi, je trouve que ça fait aussi un renvoi. Que c'est pas si facile. Enfin, les congés, c'est des trucs de congé de quelque chose, d'une fonction, d'un rôle, d'un machin, d'un truc de statut social qui est établi, quoi. Et le militantisme, c'est plus compliqué, je trouve. Et ça rejoint une des émissions que, si vous ne l'avez pas écoutée encore, je vous la conseille. C'est celle qui avait été faite par des camarades sur le travail associatif. Et à quel point, effectivement, quand c'est toi qui dois poser tes cadres, tes trucs, tes rythmes, et qu'en fait, il y a toujours besoin de lutte, de résistance, de solidarité, etc., ben en fait, c'est compliqué, notamment avec la... Enfin, vous voyez bien, les doses de culpabilité, comment on fait des pauses, alors qu'en fait, la vie, ça fait pas de pause. Du coup, là, ça fait un peu lourd tout ça, mais en fait, une des questions qu'on pourrait se démarrer à se poser dans ce petit moment de discussion, c'est effectivement, est-ce qu'on arrive, en tant que féministe de la cuvette, comme nous l'avons rappelé. Bon, c'était pour faire un peu de jeu de mots, de drôle, tout ça. Est-ce qu'on arrive à échapper à nos engagements pendant qu'on fait des vacances ou pas? Comment ça se deal, tout ça?
Mais est-ce qu'on y arrive? Mais est-ce que ça a du sens?
Et est-ce que d'abord, ça a du sens?
Est-ce qu'on a le droit? Ah bon, je ne savais pas qu'on avait le droit. Moi, je croyais qu'on n'avait pas le droit.
Ah, parce que sinon, j'aurais fait autre chose, moi, les années passées.
On a le droit à combien de semaines de congés de militantisme par an?
Eh bien, c'est ça. Nous, les 5 semaines, c'est pas comme ça.
C'est 1,5 jours tous les 3. C'est très compliqué.
Non, mais moi, je trouve ça super, les vacances. Je trouve ça très bien d'avoir des moments pour se reposer et tout. Mais c'est vrai que, est-ce que ça a du sens d'oublier tout ce qui, tout ce qui nous tient à cœur, ce qui nous porte, ce qui fait du sens dans nos vies, qui est, enfin, en partie, de lutter contre les inégalités, les oppressions et les rapports de domination dans ce monde. Et je crois que... à plein de moments, on les oublie pas. En tout cas, moi, j'ai l'impression de, même quand je suis en vacances, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses, j'arrive pas à les mettre de côté. Mais c'est pas juste que j'arrive pas, c'est que je crois que ça me fait pas beaucoup de sens de les mettre de côté parce que c'est tellement lié à ce que je suis, à ma manière de vivre, à ma manière d'être, que bah ouais, en fait, ça reste dans ce que je suis. Et à plein de moments, prendre des vacances, comme on disait, c'était de faire de la rupture avec le quotidien, de prendre de la distance et tout. Et moi, c'est sûr qu'il y a un endroit que j'adore, c'est d'aller en vacances chez des amis, par exemple. Et du coup, de me retrouver à un peu les suivre dans leur réalité quotidienne et de faire comme elles, eux. Et souvent, c'est des trucs de lutte. Ou alors, de faire des rencontres, comme aller aux rencontres Radio Rageuse, par exemple. Du coup, d'aller dans des grosses rencontres de réseaux. Et là, par exemple, Radio Rageuse, réseau d'émissions de radio féministes. Bah, on se retrouve entre féministes qui kiffent la radio. Et en fait, bah ouais, d'une manière, c'est des vacances, parce que c'est pas du tout comme le quotidien. Et puis, ça permet d'autres regards sur le quotidien. Ça fait de la distance et tout.
Et en même temps, c'est camarades en même temps.
Pas vraiment du repos non plus, quoi. Mais moi, je pense que je suis pas complètement d'accord avec toi. Ça dépend de quoi on parle. Si on parle des vacances comme si on allait tout laisser de côté, nos valeurs, nos façons de vivre, je vois ce que tu veux dire. Bien sûr qu'en partant en vacances, on continue d'avoir envie de pas faire n'importe quoi, j'en sais rien, avec ce qui nous tient à cœur dans notre manière de vivre. Mais par contre, moi, je sais que je me suis déjà même un peu mis en colère contre des camarades qui ne partent pas en vacances, qui ne prennent pas de vacances ou qui ont du mal à prendre des vacances et qui, en fait, sont épuisés et sont vraiment, des fois, assez hauts dans des niveaux d'épuisement et d'épuisement moral, d'épuisement physique, d'épuisement aussi. Psychologique. Parce qu'en fait, ça peut être très fatigant, certaines formes de militantisme très engagées qui sont au quotidien. Ça peut être extrêmement fatigant et j'ai vraiment envie de leur dire, mais si en fait là c'est nécessaire que tu prennes des vacances, même pour pouvoir continuer à lutter en fait, là je pense que tu ne luttes plus de manière très efficace, tu deviens relou en fait, et donc ça vaudrait le coup que là tu fasses une pause. Et c'est pas pour rien que les vacances ça a été pris, c'est qu'on est plus efficace au travail après les vacances. Alors si ton militantisme il ressemble un peu à du travail dans la densité du truc et tout, ben ouais, il faut prendre des vacances aussi.
Oui, puis comme tu... Enfin, là, ça rejoint aussi ce que vous disiez, ou comme tu disais, Ernest, sur le... C'est pas tant... Enfin, ça veut pas dire... C'est pas parce que tu fais une pause dans tes activités de lutte, etc., et que t'en as besoin pour ton bien-être psychologique, physique, et pouvoir continuer sur la durée et un peu plus pérenne ou quoi... Eh ben, ça ne veut pas dire que la pause que tu fais, elle est complètement contradictoire avec toutes tes valeurs. Quoi que
d'un coup, je prends complètement l'avion.
Désengagée, ouais, c'est ça.
Je mange des merguez. Qu'est-ce que j'en fais? Je ne sais pas.
Ben, je ne sais pas, là, ça m'a perdu.
Mais après, du coup, il y a cette grande, grande question qui est la peur de l'ennui.
Mais jamais, 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 je vous le dis. Non, moi, je suis une personne qui ne s'ennuie pas. Mais bon, je veux dire, je peux passer...
T'as pas peur de t'ennuyer?
Non, j'ai pas peur de m'ennuyer, mais je ne m'ennuie pas. C'est même pas que j'ai pas peur, c'est que j'ai éprouvé beaucoup de temps long, des fois seul, et je ne m'ennuie pas, mais bon. Si j'ai comme un autre, mais je l'ai déjà dit que j'étais une personne addictive sur ce plateau, donc c'est pas grave. Je suis la personne qui a dit fumer toute la journée, là. Du coup, ça peut m'aider, hein, des fois, clairement. Mais ouais, je peux regarder mon chat pendant 3 heures, je suis perdue dans mes pensées, je regarde un brin d'air. Enfin, je veux dire, je comprends pas qu'on puisse s'ennuyer, moi, en fait. Toi, tu peux t'ennuyer.
Ah bah oui, bien sûr. Moi, j'ai très, très peur du vide. Moi, je veux dire, là, je m'adressais à une camarade qui pouvait être moi-même à certaines périodes. Je fais partie de celles qui remplissent leur agenda parce qu'elles ont peur de s'ennuyer, justement. Mm-hmm. Cet été, je vais faire 4 jours toute seule au bord de l'océan. C'est la première fois de ma vie que je fais ça.
L'océan va te remplir.
Bah, j'espère pas trop, quoi. J'ai pas l'intention de me noyer. Mais non, voilà. Et ça me fait un peu peur.
Mais du coup, c'est un...
C'est un choix, pourtant. Ouais, c'est un ça. Choix. Mm-hmm. Mais qui me fait un peu peur. Mm-hmm. Et aussi parce que, pardon, je me suis rendu compte en discutant avec des amis sur qu'est-ce qui me faisait peur, que en fait, c'est aussi, c'est qu'est-ce que ça symbolise. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais complètement folle. C'est que... ou un peu névrosée, légèrement, c'est qu'en fait, pour moi, ça voulait un peu dire que si je passais 4 jours toute seule, c'est que j'avais pas d'amis.
Ah ouais.
Là où il y a une copine, elle m'a dit « Ah mais c'est génial, c'est un cadeau que tu te fais de passer 4 jours seule, sans la pression des autres. » Et moi, j'étais « Ah oui. »
Et tu verras que toi-même, tu es intéressante pendant 4 jours. Tu peux te... tu ne vas pas t'ennuyer toi-même.
On verra. Compte rendu à la rentrée.
Peut-être parce qu'il y a aussi la question de l'attente des vacances. Il faut qu'elle soit réussie, ou il faut qu'elle soit riche, ou il faut qu'elle soit, faut qu'il se passe quelque chose dans les vacances. Alors peut-être qu'une partie de la crainte de cet océan est fondée par peut-être l'expérience pas aussi remplie qu'elle, ouais. que tu l'imagines. Mais je te souhaite de bonnes vacances à l'océan, moi.
Après, moi, je trouve que aussi les vacances, c'est aussi, justement, un truc de rupture, comme on disait, avec le quotidien. Mais du coup, si mon quotidien a été fait beaucoup de choses, disons, dans le but de fabriquer ma vie ou de m'occuper de moi-même, et ben, je vais avoir vachement envie de trucs comme les rencontres de Radio Rageuse, justement, ou des trucs comme ça, où en fait, il va y avoir émulsion. Et émulsion dans la tête, émulsion en fait, où mon esprit va travailler, où en fait, je vais avoir... En fait, je vais participer à des ambiances où on a des tas d'idées, on a des tas de créativité et machin et bidule. Parce qu'en fait, au final, moi, je trouve que militer, c'est pas forcément... Mais c'est une question de juste équilibre. C'est pas forcément un truc contraignant et chiant. Pour moi, militer, c'est vivre, en fait. Et que du coup... ça, c'est quelque chose, je pense, qui fera toujours partie de ma vie. Et c'est une question vraiment beaucoup, très, très forte d'équilibre, au final. Parce que justement, là, par exemple, récemment, j'en ai pris des vacances. Et puis... J'ai rien foutu, c'était trop bien. Voilà, question d'équilibre, quoi.
Ça fait penser à un bout de notre ancien jingle, ça m'a fait « Militer, c'est vivre, et nous avons le droit de vivre ». Vous voyez le truc, là.
Nous avons choisi de vivre.
Ouais, c'est ça. Et je crois qu'on va quand même s'arrêter là pour le petit bout de discussion, parce que vu que le temps file, je crois qu'on n'aura pas le temps de beaucoup défiler, et il y a encore quelques petites surprises. Du coup, en attendant la suite, on vous propose un petit morceau de musique en transition, qui est un des tubes de l'été, je vous le présente après. Musique.
l'alphabet, Paris a de la nature. Nous sommes l'anecdote, le méfait, le désir assumé de l'impur. Nous sommes la déviance, l'imparfait, devant l'universelle figure. Nous sommes la nouvelle épistémée, amoureux plutôt que créature.
Alors, c'est le nouveau tube de l'été qu'on vient de découvrir. Merci à la personne qui a fait passer ça sur une liste féministe de la région. Donc, ça s'appelle Claude Lanthrope. Elle vient du Québec, Montréal, je crois. Donc, le morceau s'appelle Allô Sexuel. Allô Sexuel, donc. Et donc, Allô Sexuel, pour la petite définition vite fait, c'est tout ce qui n'est pas le régime hétérosexuel strict, quoi.
Ça veut dire sexualité avec quelqu'un d'autre.
Ah,
allô, sexuel. Voilà.
Ah, oui. Donc ça allô, inclut l'hétérosexualité.
Oui.
Ah, bon.
Mais je crois que ça n'inclut pas le L apostrophe asexualité.
Oui, bah voilà.
Ni est, l'autosexualité.
Est, oui, on est rarement pris en compte. Mais nous aimons les pandas et nous sommes les meilleurs. Voilà, ça c'est une petite blague. Je sais pas, moi ça y est, je commence à dire n'importe quoi. Donc je vais lancer la chronique. Pourquoi ? Alors évidemment, il y a toujours un tube de l'été. Est-ce qu'il y a toujours un tube de l'été ? Marina, c'est quoi le tube de l'été ?
Alors, est-ce que vous aussi vous aimez bien avoir un tube de l'été ? Moi, je sais pas si c'est important, mais je me rends compte que c'est récurrent. Le tube de l'été, tu ne le décides pas vraiment. Il apparaît au début de l'été ou plus tard. Ou alors c'est rétrospectivement que tu te rends compte que c'était celui-là, cet été-là. Oh bien sûr, hein, c'est quand même très souvent un bon gros hit produit par l'industrie musicale qui tabasse sur toutes les radios et que quand tu l'entends au supermarché, tu danses discrètement dans le rayon frais. Ce qui est super, c'est quand tu le partages avec une copine. C'est peut-être d'ailleurs une de ses fonctions premières, d'être partagé, et même de créer ou de renforcer un lien d'amitié. N'est-ce pas, Billy ? Ah oui, ça c'est Dua Lipa. C'était l'an dernier et on était trop contentes, on dansait sur le port de Douarnenez. Voilà, c'est ça. C'est la chanson qui reste le marqueur d'un été en particulier. Et moi je me souviens de l'été 2003, c'était la première canicule. Et ouais, à cette époque c'était inédit et on ne savait pas que ça allait devenir notre avenir. Je vivais dans un squat féministe à Toulouse qui répondait au doux nom de la Relou. On n'avait pas les LEC, mais on avait acheté une toute petite piscine gonflable dans notre jardin tout pourri et on faisait le tour de toutes les radios pour tomber sur le tube du dernier album de Madonna. Vous vous rappelez ? Le tube de l'été, là où il est le plus fort, c'est quand il te fabrique de la nostalgie, presque en direct et durablement. Je me souviens avoir pensé ça quand j'étais à poil dans le petit canot gonflable avec Amélia et Dédette, à jouer aux vedettes crust de pacotille. Est-ce que je me souviendrai de cette euphorie ? Qu'est-ce que ça symbolisera ? Bah oui, je m'en souviens. Et sans grande originalité, ça symbolise mes 20 ans, mes premières expériences avec des meufs, la Luna Loca, et une amitié durable née notamment autour de cet amour de « la fête malgré l'adversité ». Mais même si certains tubes ne restent pas tant dans les annales comme celui-ci de Madonna, je m'en rends compte en le réécoutant maintenant. Mais c'est aussi ce morceau-là qui te revient et que tu recherches. Mais si, tu sais, celui qui fait... Nanananana... Tu vois pas ?
Non.
Tu vois pas ? Mais alors là, tes amis te regardent, dubitatifs. Et encore une fois, c'est la radio qui te sauve. Ah, voilà, oui, c'est celui-là.
Ah oui.
Et oui, c'est celui-là, ça c'était en 2014 et Jojo elle allait bientôt naître, enfin bref. Bon, politique, je crois pas. En tout cas, dans mon cas, c'est quand même bien souvent du bon gros tube qui tâche, avec des paroles pas toujours simples à assumer. Mais ça raconte nos histoires. Et ça, c'est un peu politique quand même, non? Bon, et cet été alors? Il est encore peut-être un peu tôt pour le dire. Mais moi, depuis le week-end dernier où on a cuisiné pour les rencontres tangentes, j'écoute ça en boucle. Ça m'enjaille de ouf et ça me fait penser à ces peut-être nouvelles futures copines que je me suis faites en cuisinant dans la canicule. Canicule qui, pour le coup, devient malheureusement un tube de l'été récurrent et politique.
On a le seum à la mort, méchante alchimie. On sait qu'on a tort, on veut pas que ça finisse. On a le seum à la mort, méchante alchimie. On sait qu'on a tort, mais on veut pas que ça finisse.
Laisse-moi te faire danser.
Je sais, je n'ai pas respecté complètement la ligne éditoriale de Déjanré, quoique j'ai entendu dernièrement des ragots people, mais bon, on n'en dira pas plus. C'était en tout cas Letty, voilà, en duo avec Soul King pour, je ne sais même pas c'est quoi le titre, Fais-moi danser,
non, c'est...
voilà. C'est peu... On verra à la fin de l'été si ça a marché, mon petit pari que c'est peut-être un des tubes de l'été.
Et moi, je parie que c'est allosexuel.
quelque part, je...
Moi, je croyais que c'était Pizza Girlfriend.
Mais c'est vrai qu'il y a eu Pizza Girlfriend. Mais
on a le droit d'avoir plusieurs tubes de l'été. Hein.
Est-ce qu'on peut avoir plusieurs tubes de l'été? On peut avoir plusieurs tubes de l'été.
Bah, j'espère bien.
Ouais, sans... On est d'accord.
Bah, pour commencer votre été et vos vacances en beauté, on vous propose maintenant un agenda.
Oui, parce que bon, on rigole, mais c'est vrai que le monde va mal.
Et qu'on ne prend pas vraiment des vacances de nos engagements politiques.
Oh ben, si moi, je pars en vacances samedi après la manif.
Et avant les rencontres religieuses.
Vous en avez certainement entendu parler. En ce moment, aux États-Unis, il se passe un truc par rapport à l'IVG. La Cour suprême des États-Unis a publié un arrêt qui renverse une jurisprudence qui s'appelait la jurisprudence Roe et Wade. Je ne sais pas comment on dit, Wade. Qui protège l'accès à l'IVG depuis 1973. Donc maintenant, les États libres des États-Unis sont désormais libres d'interdire ou en tout cas de restreindre sévèrement le droit à l'avortement. Et donc depuis la déclaration de cet arrêt, il y a eu plusieurs États, il y en a eu au moins 8, où l'avortement a été directement interdit. Ils avaient des lois qui étaient prêtes à se déclencher dès que cet arrêt tomberait. Donc dès maintenant, ça devient vraiment très difficile, voire impossible pour des femmes d'avorter aux États-Unis. Et évidemment, le problème de cette loi, c'est qu'elle va impacter en premier lieu les femmes précaires qui n'auront pas les moyens de voyager pour aller avorter dans d'autres États, par exemple. Et puis on se rappelle qu'en fait...
On aura le droit déjà d'aller avorter dans un autre État.
Et peut-être qu'il y aura des lois qui empêcheront même d'aller avorter dans d'autres États. Non, mais c'est vrai qu'en fait, c'est... Je crois que cette nouvelle, elle a fait un choc parce que voilà, les États-Unis, c'est un pays occidental qui est censé... Bon, ben, en fait, on sait que le droit à l'avortement, c'est un droit qui est fragile partout parce qu'il y a des militants anti-avortement qui ne sont pas des groupes obscurs, sombres dans des coins, hein, qui sont des gens très actifs et très armés aussi au niveau des lois, on le voit, mm-hmm. qui sont capables vraiment d'attaquer de plein de manières différentes pour un jour arriver à leur fin.
Qui occupent des fonctions importantes d'ailleurs hein, dans les gouvernements. Donc,
Et puis que c'est pas parce qu'un pays est occidental qu'il est indemne de pas mal de critiques et ça fait plusieurs luttes qui se passent aux États-Unis, qui sont grandement soutenues dans plein d'autres pays, et notamment sur les questions du racisme et les questions d'avortement.
Évidemment. Donc voilà, donc parce que la solidarité, elle est importante, et parce que c'est l'occasion de rappeler que c'est un droit important pour nous, les féministes, parce qu'il symbolise beaucoup de choses, cette question du droit de disposer de son corps, de pouvoir faire des choix, de choisir de devenir mère ou pas, de pouvoir choisir quand est-ce qu'on fait des enfants, si on veut faire des enfants. Il y a des manifestations un peu partout en France et à l'international pour soutenir les femmes américaines, les féministes américaines. À Grenoble, il y en a une samedi 2 juillet à 17h. Avec un départ depuis l'hôpital Couple Enfant, qui est l'endroit où se passe, où il y a le centre IVG à Grenoble. Mmh. Donc rendez-vous samedi à 17h pour celles qui ne sont pas encore parties en vacances, pour faire un rassemblement ou une manifestation pour rappeler ce droit-là. Et aussi rappeler que c'est un droit important aussi ici, et qu'il faut y veiller et y être vigilant, et qu'il y a encore des progrès à faire. Il y a encore des revendications qui peuvent être faites aussi en France pour améliorer l'accès à l'IVG.
Oui, puisque ce n'est pas parce que c'est écrit dans la Constitution que c'est gagné. On l'a vu.
C'est pas encore écrit dans la Constitution, hein, ceci dit.
Non, non, mais vu qu'aux États-Unis, ça y était, enfin, ça, on sait qu'on peut reculer, quoi. Du coup,
voilà,
tout
à fait.
Faut jamais baisser les bras, je sais pas comment on dit. Et en tout cas, mon petit agenda, si je poursuis, je voulais vous rappeler la lutte du syndicat des femmes musulmanes, que d'ailleurs, Marina, tu avais accueilli il y a quelques temps avec Viviane. Puisque je ne sais pas si vous l'avez vu passer, peut-être dans les médias, vu que ça fait un petit buzz et tout. À un moment donné, le conseil municipal de Grenoble a adopté le lundi 16 mai le changement des règlements des piscines, afin d'y autoriser les maillots couvrants et les topless. Cette décision faisait suite à la campagne Piscine pour toutes, menée par le syndicat des femmes musulmanes, et la pétition hashtag mon corps, mon choix, mon maillot. Et pour certains, certaines, on y était, hein, ce lundi 16 mai, qui retranscrivait le conseil municipal et les discussions, les votes, etc. On était à peu près 300 et tout. Bon, ça a été long, ça a été houleux, ça a été chiant, pas facile d'entendre des inepties incroyables et tout. Même pour les élus qui étaient pour ce changement de règlement, hein, il y a eu des trucs pas chouettes. Enfin bref, on s'en fout. En tout cas, à la fin, à une voix, il y a eu les cris de joie, puisque enfin il y a eu le vote. Et enfin, ça, on se disait que l'organisation collective fonctionne et finit par payer, même avec des obstacles. Mais, après 4 années de lutte et qu'on croyait qu'on avait pris ça pour un accomplissement, c'est pas une réelle victoire, puisque ça aura tragiquement pas duré, puisque dès le lendemain, les Wauquiez, Darmanin et autres préfets en tout genre, là, ont dit qu'ils allaient faire... appel. Du coup, le préfet de l'Isère a saisi le tribunal administratif. Du coup, je vous passe un petit peu les... Comment on appelle ça ? En tout cas, ça s'est passé, ça a été suspendu. Là, c'est passé le... Je ne sais plus quand... En juin, en tout cas, la justice, elle a suspendu mercredi 25 mai l'autorisation implicite. Enfin, du coup, ça a re... Alors que ça venait d'être ouvert, ça vient de se faire refucker, quoi. Et du coup, bah, je sais pas, je voulais vous lire un petit extrait d'un des appels à soutien qu'a lancé Nous Toutes 38 pour soutenir les camarades. Et il y a déjà eu un rassemblement et je pense qu'il faut vraiment aller sur leur Facebook et tout et voir comment les soutenir et continuer la lutte parce que c'est juste pas possible. Du coup, suite aux derniers événements liés à la lutte du syndicat des femmes musulmanes, nous s'étions alertés et organisés collectivement une réponse antifasciste à la situation ouvertement islamophobe et raciste que vit le syndicat actuellement. Le Conseil d'État a examiné mardi 14 juin à l'appel du jugement référé laïcité, rendu par le tribunal administratif de Grenoble. Ce jugement entraînant la suspension de la décision du conseil municipal quant au changement des règles de piscine. Donc la mairie de Grenoble va faire appel devant le Conseil d'État contre la décision de la préfecture de l'Isère. Mais Gérald Darmanin, qu'est-ce qu'il vient foutre là ? Mais il s'en mêle personnellement, quoi. Le ministre, il vient de l'intérieur, il va être représenté par un avocat lors de l'audience, quand même. Enfin, bref, je vous passe un peu. Non, je ne sais pas si j'ai le temps de vous lire tout le petit appel. En tout cas, on peut dire que c'est effectivement, ça fait écho à... Ils ont fait passer ça aussi avec le truc de la loi séparatiste, là, qui était passée en 2021. Enfin, c'est vraiment, tout est bien abject, etc., etc. Et il faut aussi dire que là, il y a eu plusieurs tentatives de dissolution. Hein. On en avait déjà parlé aussi, c'est IF, etc., Palestine Vaincra. Et enfin, là, il y a aussi donc, là, il y a la répression du collectif et la répression individuelle qui se met en place aussi.
C'est pas que des tentatives, parce que du coup, le CCIF a été dissous, mais pas l'association Palestine Vaincra n'a pas été dissoute.
Oui, c'est ça, effectivement, vu que j'essaye de raccourcir les trucs. Et puis, effectivement, qu'il y a une banque, en tout cas, que là, elle nous alerte, les camarades de Nous Toutes 38, sur que la répression individuelle sur les membres est absolument alarmante, c'est leur mot. Il y a un refus d'ouverture de droits, il y a des aides sociales, il y a des licenciements sans justification, il y a diverses interpellations et des agressions dans la rue, les transports, etc., sans parler de l'immense pression familiale et professionnelle. Du coup, ça va vraiment pas très fort, quoi. Je veux dire, quand on vient déjà de lutter 4 ans, qu'on a le... Enfin, je veux dire, ça fait un sacré... Ah, la rage dans la bouche et le... Voilà. Du coup, bah, effectivement, on peut que... On a... La fin de l'appel, c'est on n'accepte pas cette situation. Nous sommes solidaires de la lutte face à la répression systémique de nos camarades depuis 4 ans, face à la volonté de l'État de les disqualifier, de les annihiler politiquement. Et du coup, bah, y a l'idée que... Là, il y en a déjà eu un il y a quelques temps, mais du coup, il va y avoir des rassemblements. Il faut suivre sur leur Facebook et autres les... La lutte, qu'est-ce qu'il va falloir faire, quoi, puisque...
Et on les réinvitera, on je les pense, réinvitera. À Desjenrées pour qu'elles nous parlent de la continuité de leur lutte.
Mm-hmm. Voilà.
Bah, dans la suite des nouvelles un peu déprimantes, et moi d'ailleurs j'ai l'impression des fois qu'on se répète beaucoup depuis 20 ans qu'on fait cette émission, il y a certains sujets, bah, ça fait 20 ans qu'on en parle. Pinard Sélec, je sais pas si vous connaissez mm-hmm. Pinard Sélec, c'est une militante, c'est une camarade, une militante féministe, c'est une sociologue, une écrivaine. Donc qui est turque et qui est exilée aujourd'hui en France. En fait, elle est engagée en Turquie pour la justice, pour les droits pour tous et toutes, contre la violence et contre le militantisme. Et pour cela, elle subit la répression de l'État turc depuis 24 ans. En fait, en 1998, elle a été arrêtée et emprisonnée à cause de ses recherches. Ensuite, elle a été accusée d'avoir commis un attentat sur un marché. Bon, les rapports d'expertise ont conclu que ce n'était pas du tout elle et qu'elle n'était pas du tout en cause. Mais cependant, à chaque fois, l'État a fait appel de ses acquittements. Et là, en fait, ce qui s'est passé dernièrement, c'est que la Cour suprême de Turquie vient de la condamner à la prison à perpétuité.
Ça a confirmé, quoi.
Donc cette condamnation, en plus d'être scandaleuse, elle est terrifiante, en fait. Ça ne lui donne aucune perspective de pouvoir rentrer un jour dans son pays. Donc il y a des collectifs de soutien à Pinard Sélec qui existent hein, dans plein de villes en France. Il faut aller voir sur internet. Pinard Sélec, elle s'exprime dans les médias, notamment sur Mediapart. Elle a un blog dans lequel elle écrit régulièrement des billets. Il ne faut pas hésiter à la suivre et à la soutenir de la manière que vous voudrez. Mais en tout cas, j'ai envie de dire qu'à Desjenrées, on soutient aussi Pinard Sélec. Mmh. Et on lui envoie plein de courage et de force.
Et un dernier point lutte avec du coup l'association droit au logement, le DAL de Grenoble, qui mène une occupation depuis 3 ou 4 semaines sur l'esplanade de la caserne de Beaune. Une occupation qui continue avec des assemblées générales tous les jours à 18h et des concerts de casseroles. Et il ne faut pas hésiter à passer, les soutenir. Et demain, vendredi 1er juillet, manifestation concert de casseroles à 14h, place de Verdun, pour mettre la pression à la préfecture pour le logement des 80 familles investies sur cette lutte et sur cette occupation.
Sur ce, on vous laisse pour l'été. C'était notre dernière émission de l'année.
De la saison.
De la saison. Et quoi, on vous souhaite...
Une bonne soirée et un bon été. Des bonnes vacances.
Des bonnes vacances.
Des belles vacances.
Allez,
des belles vacances.
Salut.
Salut.